VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Gabon, investiture du président Ali Bongo Ondimba pour un second septennat au palais présidentiel de Libreville. 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle qui a rejeté les recours de son rival Jean Ping, chef de file de l'opposition. Un extrait de la prestation de serment d'Ali Bongo devant la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mbouro-Rantsuo.
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste envers tous, je le jure.
La Cour constitutionnelle prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos hautes fonctions.
Madame Mbouro-Rantsuo avait préalablement rappelé la décision des 9 juges constitutionnels rendue dans la nuit de vendredi à samedi dernier, à savoir qu'Ali Bongo a été élu avec 50,66% des suffrages face à Jean Ping, 47,24%. Ont assisté à la cérémonie d'investiture 4 chefs d'État africains, Mali, Niger, Togo, Sao Tomé, ainsi que les premiers ministres du Sénégal, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique et du Maroc. La France était représentée par son ambassadeur à Libreville, idem pour les États-Unis. Pour sa part, le leader d'opposition, Jean Ping, continue de contester la réélection du président Bongo. On écoute Jean Gaspard Ntoutoumaï, porte-parole de Jean Ping.
Je pense que le Gabon est dans une crise probablement la plus grave de son histoire. Combien de temps y restera-t-elle? J'espère le moins longtemps possible. Mais nous ne pourrons pas en sortir en niant la démocratie, en niant le suffrage de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas nous en sortir dans ces conditions-là. Monsieur Ping considère que c'est à lui que les Gabonais ont accordé le maximum de suffrages lors de l'élection présidentielle le 27 août dernier. Et ce n'est pas que lui qui le considère.
Jean-Gaspard Ntoutoumaï, porte-parole de Jean Ping. Cour pénale internationale de La Haye, un djihadiste malien a été condamné lors d'un verdict historique à 9 ans de prison par la CPI. Il a été reconnu coupable d'avoir détruit des mausolées à Tombouctou, au Mali. Ce jugement est salué par l'ONU et les ONG comme un signal fort contre la destruction du patrimoine culturel. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le Touareg Ahmad Al-Faki Al-Mardi était accusé de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre 9 des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya entre le 30 juin et le 21 juillet 2012. Les juges ont affirmé qu'il était membre d'Ansar Din, l'un des groupes djihadistes qui ont contrôlé le nord du Mali pendant environ 10 mois en 2012. En tant que chef de la Hizba, la brigade islamique des mœurs, il avait ordonné et participé à la destruction de mausolées classés patrimoine de l'humanité. Les juges ont toutefois retenu plusieurs circonstances atténuantes en faveur d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Il avait admis sa culpabilité et avait demandé pardon à l'ouverture de son procès. Al-Mahdi est le premier djihadiste à être jugé à La Haye dans le cadre du conflit malien.
Réaction côté organisation de défense des droits humains. Human Rights Watch a appelé le Mali dans un communiqué à jouer un rôle plus actif dans les poursuites pour des crimes de guerre sur son territoire. Amnesty International, de son côté, a rappelé les centaines de civils tués, torturés ou violés et invité la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, à continuer ses enquêtes sur les abus commis au Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burundi, la rentrée scolaire 2016-2017 a eu lieu. L'objectif cette année est d'améliorer les performances du système éducatif national avec la création d'écoles de qualité. Mais un souci majeur pour les parents, plus de 80 000 élèves du secondaire qui n'ont pas réussi à leur examen national ne peuvent pas redoubler, car ayant échoué à l'examen de l'école fondamentale. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkunziza, s'est rendu dans certaines écoles de la capitale pour évaluer la situation. Son reportage.
10 heures à l'école primaire du bassin 2 au centre-ville de la capitale. Des enfants en uniforme kaki jouent pendant la récréation. Des parents sont au tableau d'affichage pour connaître la nouvelle classe de leurs enfants. Après la récréation, les élèves accueillent une journaliste venue s'enquérir de leurs nouvelles. La directrice de l'établissement annonce qu'une nouvelle année a débuté avec des défis importants. Régine Chimpaï.
Nous sommes prêts à accueillir un effectif d'élèves, 1262 élèves. Nous sommes prêts à les accueillir, à les mettre dans les différentes classes.
Pas de problème matériel, de bouquins.
Avec le redéploiement, on m'a pris 4 enseignants. C'est beaucoup pour moi. Il n'y aura pas de suppléants en cas de grossesse d'une enseignante. Le matériel, nous avons le bouquet d'élèves, sont insuffisants, ils sont déchirés. Français 5e, ils sont un peu zizés. On peut nous donner d'autres livres de 5e, français 5e.
Cette année scolaire 2016-2017 commence avec de nombreuses réformes, comme celles relatives à la création des écoles d'excellence qui vont résorber les pénuries en cadre d'entreprises dotées de tangibles compétences. Mais plus de 80 000 élèves âgés de 13 à 17 ans qui ont échoué aux thèses de 9e et 10e année fondamentale n'ont pas où étudier, mais la ministre de l'enseignement secondaire ne revient pas en arrière. Janvier Ndiraïcha.
Quant à ceux qui sont en dessous de ce score de 90 points, ils pourront venir s'essayer de nouveau au concours de 2017 en qualité d'autodidacte. Mais puisqu'ils n'ont pas réussi au concours, ça veut dire que soit ils feront le métier et après aussi revenir faire le concours s'ils veulent.
Mais pour le syndicaliste Emmanuel Machandari, l'avenir de ces centaines de milliers d'enfants burundais s'annonce très sombre.
On propose que les enfants restent à la maison, quitte à ce qu'ils reviennent repasser le concours à la fin de l'année. Ça devient pratiquement impossible. Un enfant de la 9e ou de la 10e, il est encore très petit. Il ne sait pas s'encadrer. Il ne peut passer toute une année à la maison sans rien faire et lui demander de venir passer le concours. Et nous avons déjà constaté que le taux de réussite est très bas.
Nouvelle année scolaire débute avec beaucoup de réformes. Certes, mais elle se heurte également à beaucoup de réticences. Que vont faire ces enfants burundais pendant une année, s'interrogent leurs parents. Quel sera leur avenir? Des questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Présidentielle américaine du 8 novembre, la candidate démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump repartent ce mardi en campagne après un premier débat télévisé hier soir qui a été suivi par des dizaines de millions d'Américains et qui a profité surtout à Madame Clinton. Deux autres débats opposeront les deux aspirants à la Maison Blanche d'ici le vote du 8 novembre. Au micro de Timothée Donogma, la réaction de l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, le républicain Herman Cohen, au face-à-face d'hier soir.
Tous les deux se sont bien défendus, je crois. Il n'y avait pas beaucoup de fautes, mais en général, je crois que peut-être Mme Clinton avait terminé avec un avantage sur Trump.
On disait du candidat républicain qu'il ne maîtrisait pas tellement les dossiers. Qu'en a-t-il été ce soir?
Sans doute, il a réfléchi sur les dossiers. Il a parlé bien sur les questions de l'État islamique. Il a parlé sur les questions nucléaires, il a parlé sur les sujets de commerce extérieur. Peut-être il n'a pas totalement maîtrisé, mais il a beaucoup appris depuis quelques semaines.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le candidat Trump a beaucoup évolué par rapport à ce qu'il était aux primaires?
Surtout dans le comportement pour le débat. Il était beaucoup moins vulgaire. Il n'était pas vulgaire, il n'était pas arrogant. Pendant la primaire, c'était toujours moi. Regardez-moi, moi je suis bien, je suis grand. Il était beaucoup moins excité, il était calme, etc. Donc, il a beaucoup évolué. Mais sur la substance, sur les dossiers, je crois que Mme Clinton montrait qu'elle était beaucoup plus avancée dans la connaissance des dossiers, dans toutes les nuances, etc.
Vous avez dit que Mme Clinton repart avec quelques points de ce débat. Qu'est-ce que cela aura comme impact sur l'électorat, selon vous?
Je crois que Mme Clinton a besoin surtout de prendre les votes de M. Sanders. Vous vous rappelez que dans la primaire, c'était M. Bernie Sanders contre elle. Et Sanders a gagné sur les jeunes, les gens entre 18 ans et 35. Le défi pour Mme Clinton maintenant, c'est de reprendre ces jeunes qui sont très réticents. Ils n'ont pas l'air d'aimer Mme Clinton. Et je crois qu'avec ce débat, elle a commencé à regagner ces jeunes.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, au micro de Timothée Donangmaï. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.